Alors, il est généralement admis que seules les personnes, les êtres humains ou groupements d'êtres humains, sont titulaires de droits. Sur le terrain juridique, on tient en effet pour élémentaire cette affirmation. Seuls les humains, les personnes physiques, des groupements d'humains, les personnes morales, une société, une association, ont des droits. Inversement, les non-humains, les minéraux, végétaux ou animaux, eux, n'ont pas de droits. Ils sont, à l'opposé, ce sur quoi portent les droits, des choses, objets de droits. C'est ainsi que l'on assimile couramment les personnes aux sujets de droits, les choses aux objets de droits. Tandis que les personnes, humains ou groupements d'humains, sont assimilées aux sujets de droits, les choses, en particulier les ressources dites naturelles, sont assimilées aux objets de droit. Dans cette perspective, il n'est d'autre solution pour attribuer quelques droits aux êtres minéraux, végétaux ou animaux que de leur accorder la personnalité juridique ou de leur attribuer la qualité de sujet de droit. Parce que l'on tient pour équivalente les notions de personnalité juridique et de sujet de droit. Il n'est d'autre issue que de reconnaître des droits aux choses de la nature, que de les faire entrer dans la catégorie des personnes, que de les transférer de la catégorie des choses à celle des personnes. C'est pourquoi nous assistons actuellement à un mouvement de personnification de la nature et de ses éléments. Après la constitution équatorienne de 2008, laquelle a conféré la qualité de sujet de droit à la terre-mère, ou Pachamama, la loi bolivienne des droits de la terre-mère de 2010 a également attribué à celle-ci la personnalité juridique. Récemment, aux États-Unis, le lac Erie s'est pareillement vu reconnaître le droit d'exister, de prospérer et d'évoluer naturellement. En France aussi, le Code de l'environnement de la province des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie prévoit que les éléments de la nature, participant de l'identité kanak, pourront se voir reconnaître la personnalité juridique. Du point de vue écologique, la personnification de la nature apparaît éminemment salutaire. Et l'on ne peut que se réjouir que cette solution fasse floresse. Mais cela n'interdit pas d'en faire la critique et de pointer ses éventuelles insuffisances. À ce titre, on peut relever, que le mouvement de personnification n'est autre qu'un mouvement de représentation. Personnifier la nature revient à lui accorder un ou des porte-paroles. Le mot « personne » est alors entendu au sens moderne du Léviathan de Thomas Hobbes. La personne est ce au nom de quoi une autre personne parle, ou qui parle en son nom ou au nom d'une autre personne. Personnifiée, la nature et ses éléments ne seraient jamais que d'éternels mineurs non émancipés, ou des majeurs vulnérables, au nom desquels leurs représentants, par exemple un tuteur, seraient autorisés à parler. C'est ainsi que la Constitution équatorienne reconnaît la possibilité à toute personne physique ou morale, collectivité ou groupe, humain, d'exercer des actions en justice pour obtenir des mesures afin de faire cesser les atteintes portées à la terre-mère ou Pachamama. De même, le Code civil français prévoit la possibilité pour toute personne ayant qualité et intérêt à agir d'exercer une action en réparation du préjudice écologique, lequel consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes. Nous voici donc autorisés à parler au nom de la nature ou de ses éléments endommagés, y compris sur le territoire métropolitain. Une technique occidentale moderne, la personnification de la nature présente du reste ce défaut, de dissimuler la multiplicité des éléments chapeautés par l'unité de la personne. La personnalité masque le collectif et le réduit, le ramène à un individu. D'où cette question. Pour reconnaître des droits aux animaux, végétaux ou minéraux, ne serait-il pas possible de procéder autrement que par la voie de la personnification? Ne pourrions-nous attribuer d'emblée des droits aux choses de la nature? Du point de vue juridique, serait-ce là une solution parfaitement incongrue, une voie totalement hétérodoxe? En vérité, le Code civil français renferme un droit des choses, un droit des relations entre les choses et les personnes, et des relations entre les choses mêmes. Il s'agit des servitudes. Pour aborder la notion de servitude, je vous propose de repartir de la notion de service écologique dont Isabelle Stengers vient tout juste de nous entretenir. Un service écologique est par exemple ce service que nous rendent les arbres en séquestrant du dioxyde de carbone. On peut évidemment en faire la critique sur les plans éthiques, sociaux, voire économiques, mais sur le terrain juridique, les services écologiques renvoient aux notions de fruits et de servitude. Le service écologique de séquestration du carbone peut en effet s'analyser en un fruit. Le carbone séquestré est une production spontanée de l'arbre, et partant un nouveau fruit au sens juridique du terme. Quant à la prestation de séquestrer du carbone, elle peut être regardée comme une obligation pour une forêt de rendre un service à la planète Terre, et plus précisément à son air ou atmosphère. On retrouve alors la figure civiliste de la servitude. Une servitude est en effet une charge imposée sur un héritage, un fonds de terre, pour l'usage et l'utilité d'un autre héritage ou fonds de terre appartenant à un autre propriétaire. Dans notre exemple, la forêt séquestrant du dioxyde de carbone peut être regardée comme le fonds servant, asservi au fonds dominant de la planète Terre, bénéficiaire, titulaire ou propriétaire, elle, d'un droit sur cette forêt. Avec la notion de service écologique, et au-delà avec celle de servitude, nous pourrions dès lors attribuer des droits aux choses de la nature, aux minéraux, végétaux ou animaux, sans utiliser le procédé de la personnification entendue comme représentation. Je vous propose donc de commencer à réinvestir le droit des servitudes pour rendre la parole aux choses de la nature, retrouver le droit des communautés d'habitants et enfin comprendre le droit des espèces protégées. À son article 639, le Code civil distingue trois sources de servitude prédiale ou réelle, c'est-à-dire trois sources de servitude entre des fonds de terre. Les servitudes dérivent ou bien de la situation naturelle des lieux, ou bien obligations imposées par la loi, ou bien encore des conventions entre les propriétaires. Les premières servitudes découlant de la configuration des lieux peuvent être regardées comme une manière de reconnaître au milieu naturel une capacité à dire ou faire le droit. En s'écoulant depuis un fonds situé en hauteur jusqu'au fonds situé en contrebas, les eaux dessinent et se faisant créent une relation de droit entre deux fonds de terre. Elles assujettissent le terrain inférieur, fonds servant, à l'obligation de recevoir les eaux du terroir supérieur, le fond dominant. Non contente d'établir des servitudes entre des terres, les eaux peuvent encore les éteindre. L'article 703 du Code civil prévoit que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user. Ainsi, une servitude de puisage s'éteint lorsque la source d'eau se tarit. Mieux, les eaux peuvent encore faire renaître les servitudes. L'article suivant du Code civil, l'article 704, dispose que les servitudes revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on en puisse user. Aussi, une servitude de puisage éteinte ressuscite-t-elle si la source d'eau rejaillit quelques années après ? Le droit des servitudes ouvre encore au droit des communautés d'habitants. Relatif aux servitudes découlant de la situation des lieux, l'article 642 du Code civil énonce que le propriétaire d'une source ne peut en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire. Il reconnaît aux communautés d'habitants un droit d'user des eaux issues de la source d'autrui en cas de nécessité. Cette disposition légale fait écho à l'article 542 du Code civil, lequel définit les biens communaux comme étant ceux à la propriété ou aux produits desquels les habitants d'une ou de plusieurs communes ont un droit acquis. Les deux dispositions reconnaissent l'existence de biens ou droits d'usage appartenant à des généralités, collectivités ou universalités d'habitants, et ce, alors même que la propriété collective est classiquement tenue pour une contradiction entre les termes, la propriété étant généralement dite « de principe individuel. L'étude conjointe des servitudes et des biens communaux apporte plus encore. S'agissant des droits d'usage de bois et forêt, la lecture des anciens commentateurs du Code civil nous apprend que ces droits d'usage, s'ils appartenaient tantôt à des communautés d'habitants, revenaient le plus fréquemment aux maisons d'Issel, soit à l'ensemble des bâtiments ou corps de ferme situés en un lieu dit. Aussi, était-ce le plus souvent des choses, et plus précisément des pierres, du bois, du chaume, qui détenaient la propriété de droits de dépaissance ou de forestage sur d'autres choses et terres voisines. Dans cette hypothèse des choses propriétaires, les êtres humains habitant les lieux se présentent davantage comme des intendants, administrateurs ou gestionnaires d'Isseux, que comme des maîtres et souverains. Du reste, l'origine des servitudes réelles apparaît propre à assurer la stabilité des relations entre les choses, obligées les unes envers les autres. Car il existe un principe de fixité des servitudes. D'un côté, le propriétaire du foncièrement ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. D'un autre côté, le propriétaire du fonds dominant ne peut faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changements qui aggravent la condition du premier. Une condition de ce principe de fixité des servitudes est que la mesure des bois prélevés et des forêts pâturées ne saurait dépendre du nombre d'êtres humains habitant les bâtiments propriétaires, mais de la capacité des terres communes à produire des ressources que nous dirions aujourd'hui naturelles. C'est dire que le droit des servitudes pourrait renfermer des règles de nature écologique propres à assurer la pérennité ou durabilité des communautés locales d'habitants via la préservation de terres fertiles. Le droit des servitudes pourrait enfin nous aider à ouvrir les communautés d'habitants aux êtres non humains et en particulier aux êtres végétaux et animaux. En ce cas, ces êtres vivants auraient la qualité de personnes habitantes de lieux asservis à eux. Je m'explique. Si le mouvement de personnification de la nature et de ses éléments me paraît insuffisant, mais ô combien important, c'est en tant que la personnification s'entend d'une représentation. Personnifier la nature, c'est la doter de représentants. Seulement la notion de personne pourrait bien plutôt signifier l'habitant. L'habitant de maison ou de terre, possiblement propriétaire de droits d'usage. Et une personne habitante pourrait ne pas être humaine. De même que les personnes humaines peuvent avoir des droits d'usage ou d'habitation sur un bâtiment, soit des servitudes que l'on qualifiait jadis de personnelles, des personnes végétales ou animales pourraient se voir reconnaître des droits analogues sur certaines terres. Et n'est-ce pas d'ailleurs ce qui se passe aujourd'hui en droit contemporain de l'environnement lorsque l'on classe des sites fréquentés à l'année ou de manière simplement saisonnière par des espèces animales ou végétales protégées? En effet, un site classé Natura 2000 ou concerné par un arrêté de protection de biotope ne serait-il pas des fonds de terre servant des personnes collectives non humaines, par exemple celle de la Drosera rotundifolia ou du busard cendré? Pour finir, il me reste à demander si les zones à défendre ou désirer, et dont va nous parler à présent Alessandro Pignocchi, ne nous donnent pas concrètement à voir ces communautés d'habitants, rassemblant des humains comme des non-humains sur un même lieu, et tissant des relations entre des choses, ainsi qu'entre des choses et des personnes, c'est-à-dire créant autant de servitudes réelles que personnelles. Je vous remercie.